Chapitre 3. Le plus beau spectacle de leur vie.
Ça va bientôt commencer,
fit Liu en consultant la montre accrochée à son poignet.
Le feu d'artifice est prévu à minuit pile, c'est-à-dire dans exactement 7 minutes 30.
Comme pour confirmer les propos du savant, des mouvements de foule transformaient à nouveau le parc de Versailles en une gigantesque fourmilière. Lunella, Valère, Agnelle, Sabi et Akan observèrent les impressionnantes vagues humaines. Les ados du château remontaient en haut du parc vers les tribunes, accompagnés des rares invités ayant gagné assez de lune pour acheter une place dans les gradins. À l'inverse, la grande majorité de ceux appartenant aux tribus nouvelles convergeaient vers le bas du parc, entre le grand canal et l'allée du manège, pour s'installer devant les tentes. La plupart d'entre eux s'asseyaient sur des ballots de paille, alignés sur plusieurs rangées.
« On remonte ?»
demanda Liu à ses amis. Autour d'eux, un essaim d'ados s'affairait. De tout petits ados. Une fois le marché terminé et avant que le feu d'artifice du birthday ne soit tiré, les prémats intervenaient. Ils avaient pour mission de tout nettoyer, de ramasser les gobelets tombés par terre, les plats de frites renversés, les lollipops écrasés, les feuilles de choux froissées. Le plus grand marché jamais organisé dans le Nouveau Monde laissait derrière lui une exceptionnelle couche de déchets. Mais les prémats étaient là pour faire place nette en un temps record. Sabi regarda Liu, sans bouger, puis finit par se lancer.
« Je déteste la façon dont ces prémats sont traités. Je déteste les voir nettoyer nos saletés. »
Partout autour d'eux, inlassablement, les petites mains des prémats enfournaient les détritus dans des sacs de toile.
« Ils sont payés pour ça, » expliqua Liu. « Grâce aux lunes qu'ils gagnent pour ce travail, ils s'achètent de la nourriture, des habits, des médicaments. Regardez-les, Sabi, ils se portent mieux que lorsqu'on les a découverts. Ils ne sont plus aussi maigres, ils sont moins souvent malades, ils sont plus forts. »« Et comme ils deviennent plus forts, » répliqua Sabi, « ils travaillent encore plus, c'est l'unique raison pour laquelle on les nourrit. Ce sont nos esclaves, et nous le savons. Nous, au château, on ne paye pas notre nourriture, on ne travaille pas pour s'habiller ou se soigner. »
Valère, à chaque nouveau mot de Sabi, hochait la tête en signe d'approbation.
« On travaille en étudiant, » tenta d'argumenter Liu, « en suivant des cours, en organisant le nouveau monde, en le pensant, en l'inventant, en l'imaginant, en... »
Dong. Minuit. La cloche du sanctuaire, très loin, quelque part dans Paris, venait de sonner une première fois, relayée par celle de la chapelle royale de Versailles. La foule se figea instantanément. Les prémats eux-mêmes s'étaient assis, ayant terminé leur travail juste à temps, et se tassèrent sur des toiles de tente étendues par terre.
« Il faut remonter dans les tribunes !» insista Liu. « Moi je reste !» décida Sabi. « Faites ce que vous voulez, moi je vais regarder le spectacle d'ici !»
Parmi eux...
Elle posa ses fesses sur un banc de paille, grimaça un peu quand les tiges sèches piquèrent ses cuisses nues, mais ne bougea plus.
« Ah, le ciel est aussi beau vu d'ici !»
Dong, dong.
« T'as raison !»
approuva Valère en s'asseyant à côté d'elle. Agnelle fit de même. Lunella lui adressa un discret clin d'œil. Elle avait repéré que, pour une fois, ce n'était pas le ciel qu'Agnelle admirait, mais le beau guitariste, assis à l'avant de sa roulotte, collé à sa danseuse, une main passée autour de sa taille, l'autre caressant la croupe de leur cheval.
« Ok, » concéda Akan. « Je crois que je vais rester, moi aussi. »
Il poussa Valère pour prendre place près de Sabi.
« Dong. »« Je suis encore ministre, » bafouilla Liu. « Je suis obligé d'aller dans la tribune officielle avec les autres. » C'est une question de protocole, de respect pour tous les savants. Tu viens, Lunella ?
Le savant attendit une réponse et, s'étonnant que sa petite amie ne vienne pas, répéta
« Lunella !»
Il se retourna. La jeune fille, debout derrière eux, tremblait.
plus blanche que la mort, comme si le sang s'était bloqué dans son cou et n'irriguait plus son visage. Ils comprirent immédiatement la gravité de son état. Depuis que Solario était mort, Lunella avait ressenti plusieurs fois ce genre de crise où son frère semblait lui parler depuis l'au-delà, et chaque fois, c'était pour la prévenir d'un danger.
« Lunella ?»
répéta encore Liu.
« Ça va ?»
La savante fixait les toiles de tente qui claquaient au vent, les chaises de paille, la foule entassée autour d'eux.
« Je n'aime pas ça !»
finit-elle par murmurer d'une voix grelottante.
« Ça, quoi ?»«
La foule, le vent, la paille, les toiles. Le feu d'artifice va être tiré, là, à quelques mètres. S'il y a la moindre étincelle... »
Liu avait compris. Il se mit à observer avec attention les rampes de lancement des pétards et des fusées installées sur le toit de l'orangerie.
« J'ai un mauvais pressentiment, »
continua Lunella de sa voix d'outre-tombe.
« Il y a trop de monde. »
Liu, tout en l'écoutant, analysait la situation. Lunella avait raison et, même sans cette étrange prémonition, lui aussi aurait dû s'en rendre compte. Les fusées étaient positionnées beaucoup trop près du marché. La foule était bien plus dense que ce qu'ils avaient prévu et aucun plan d'évacuation n'avait été pensé. Le marché était organisé comme un labyrinthe sans issue, à l'exception d'une ouverture d'un mètre de large, face à eux entre deux grandes tentes. À la moindre panique, tous se précipiteraient vers cette unique sortie, mais seuls quelques-uns pourraient passer.
Dong.
Le feu d'artifice serait tiré juste après le 12e coup de minuit.
« Eh ben, c'est pas compliqué !»
trancha Sabi.
« Y a qu'à faire monter tout le monde là-haut, près du château. On se tassera dans les tribunes !»
Akane n'était pas convaincu.
« Ils ne voudront jamais... »«
Vas-y !» ordonna Sabi. « Grouille-toi, Liu ! T'es le ministre des Inventions ! Si t'ont gardé au conseil, c'est que Nonor et Mordelia te font confiance ! Tu peux les convaincre du danger ! Au moins, leur faire attendre quelques minutes avant de lancer leur fichue fusée, le temps que tout le monde s'éloigne du champ de tir !»
Liu hésita une demi-seconde, évalua la situation, puis se mit à courir à toutes jambes vers les tribunes officielles. Dong. Encore 6 coups, et le feu d'artifice serait tiré. Alix et Zizo s'étaient installés sous la charpente de la chapelle royale. On y accédait en grimpant un escalier de pierre, puis en escaladant les poutres. Ils atteignaient ainsi une petite plateforme de bois derrière le plus haut vitrail. La plus belle vue sur le parc de Versailles. Cette cachette, c'était leur refuge secret, déniché en prévision du birthday. Dong. Le 11e coup de minuit venait de résonner. Dans une seconde, le feu d'artifice serait tiré. Zizo ouvrit avec précaution la lucarne et le vent, toujours aussi intense, s'engouffra aussitôt sous la charpente.
« On est aux premières loges, » fit le garçon. « Ça va être le plus beau feu d'artifice jamais vu dans le Nouveau Monde. Regarde cette foule dans le parc du château. Ils sont venus de partout pour le voir, même les prémats. »
« Eux n'ont pas eu le choix. » Zizo ne releva pas la remarque de son amoureuse et continua d'observer le parc, le labyrinthe de toiles de tente, les murs de caisses et de coffres, les rangées de bancs de paille sur lesquels les ados se serraient. Rien ne bougeait. Alix enroula ses bras autour des épaules de Zizo, se collant à lui.
« Tu es certain que t'as bien compté ?» s'inquiéta-t-elle.
« Oui, » assura Zizo. « On a failli devenir sourd tellement Mook et Matifou tapent fort sur les cloches de la chapelle royale. Mais ils n'ont donné que 11 coups. »
« Par Marie-Lune, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire sonner le dernier ?»
Liu se sentait minuscule, debout devant la tribune officielle. Il avait du mal à respirer et reprenait difficilement son souffle après avoir traversé la moitié du parc en courant pour arriver avant le 12e coup de minuit. Mordelia et Eugénor, côte à côte dans les gradins, le regardaient comme s'ils étaient 2 pharaons en haut de leur pyramide et lui, un misérable scarabée.
« Il y a trop de vent !»
continua d'expliquer le ministre des Inventions.
Un vent du sud qui risque de projeter des étincelles en direction du marché.
Augénor avait levé sa canne, ce qui signifiait, Liu l'avait compris, que le 12e coup de cloche était retardé en attendant que le grand cerf donne l'ordre de le sonner. Liu avait obtenu un répit.
La foule est trop nombreuse, continua-t-il d'argumenter. Il n'y a pas assez d'issues dans le bas du parc. Au moindre début de panique, ça peut devenir dramatique.
Il y eut un long silence. Le savant eut tout le temps d'observer sa place vide dans les tribunes au milieu des autres ministres.
Tu as raison, Liu, finit par approuver Mordelia. La foule est nombreuse, très nombreuse. Ce jour du birthday est un succès comme le Nouveau Monde n'en a jamais connu. Personne n'a jamais vu autant d'êtres humains rassemblés. Alors, réjouis-toi, oublie le temps d'un soir, que tu es un savant. Redeviens un enfant. Regarde-les tous, ils sont tellement heureux et impatients. C'est le plus beau jour de leur vie, et le spectacle sera gratuit.
Liu pesta intérieurement. Est-ce que Mordelia ne voulait rien comprendre? Non. Elle était bien trop intelligente pour cela. Simplement, elle n'avait pas conscience du danger. Quel autre argument pouvait-il trouver? Il essaya d'attraper le regard de Génor ou d'une des ministres et s'arrêta sur celui d'Isalis, assise à la droite du conseiller.
« Allez, Liu !» fit la ministre du temps passé. « Viens t'asseoir avec nous, il ne s'agit que de quelques pétards. Un peu de bruit, quelques éclairs, et ils seront contents. Il ne leur en faut pas plus à ces sauvages pour être impressionnés. Si tu veux qu'il y ait moins de monde l'année prochaine au birthday, on organisera quelque chose de plus raffiné. Un petit cocktail entre nous, avec un quatuor à cordes et des chanteurs lyriques. »
Le vent gagnait encore en force, faisant claquer le toit de la tribune. Mordelia tenait à deux mains la couronne d'immortel posée sur sa tête pour qu'elle ne s'envole pas.
« Mais vous ne comprenez rien !» s'énerva le savant, de plus en plus persuadé qu'un drame se préparait. « Il faut tout annuler !»«
Tout annuler ?»
répéta Vanille, sidéré. La ministre du jour et de la nuit était assise à la gauche du grand cerf.
« Tu te rends compte de ce que tu dis ?» Le feu d'artifice a coûté plus de 4000 lunes. C'est la première fois qu'une somme pareille est engagée. La technique, la physique, c'est la compétence de ton ministère, pas le mien. Tu as eu un an pour tout préparer. C'est pas au 12e coup de minuit qu'il faut te réveiller.
Nom du ciel, Vanille! Je ne pouvais pas prévoir la météo un an avant, ni qu'il y aurait autant de spectateurs.
Liu planta ses yeux dans ceux de Génor. Même si le savant n'avait aucune confiance dans le grand cerf, il était sa dernière chance. Le conseiller avait forcément le sens des responsabilités, pas comme tous ces ministres inconscients.
« Grand cerf » l'apostropha-t-il. « Tu veux vraiment avoir un drame sur la conscience? Tu veux que je te dise ce qui va se passer au moindre début d'incendie? La foule ne pourra pas fuir par le sud, l'issue est trop étroite, alors ils vont tous remonter et se précipiteront vers les marches du parc, vers le château, vers les tribunes, vers vous. Et à ce moment-là, leur problème deviendra le vôtre. Il n'y aura plus ni ministre, ni habitant du château, ni invité quand la foule vous piétinera. »
Liu était en sueur. Il ne pouvait pas faire plus. Les ministres le regardaient, stupéfaits. Aussi choqué que s'il avait insulté la mémoire de Marie-Lune, dont l'ombre de la statue planait au-dessus d'eux. Génor continuait de brandir sa canne au diamant. S'il l'abaissait, le 12e coup serait sonné. Un petit sourire s'afficha sur ses lèvres.
« Tu as raison, Liu. Tu as parfaitement raison d'être prudent. »
Liu respira profondément. Il avait gagné.
« Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le risque d'un mouvement de panique, » expliqua Augénor d'une voix grave. « Trop de vies sont en jeu.
Je fais confiance à ton analyse. » Derrière ses petites lunettes, les yeux de Liu pétillaient de fierté.
« Bill, » fit le grand cerf en se tournant sur sa droite, « j'ai une mission pour toi. »
Bill, installé à côté de Mordelia, se leva. Sa cape de tigre, dont il ne se séparait plus depuis qu'il avait été nommé ministre des Voyages, vola derrière lui.
« Prends-y garde avec toi et descends jusqu'à la dernière marche, avant le Grand Canal. Tu trouveras une herse de barbelés.
suffisamment longue pour fermer les allées d'Apollon, de Bacchus et de Saturne et tous les chemins permettant de remonter jusqu'au château. Dresse la herse. Assure-toi qu'elle est solidement fixée et que personne ne pourra la franchir sans que sa peau finisse en lambeaux. Tu y resteras avec 9 gardes armés. Tu m'enverras le 10e soldat pour me prévenir quand notre tribune sera ainsi sécurisée. Jusqu'à ton signal, aucune fusée ne sera tirée.
Bill s'éloigna rapidement, fier qu'une telle mission lui soit confiée. Les yeux de Génor le suivirent quelques instants, puis se posèrent sur Liu, toujours debout devant la tribune. Le savant tremblait de colère. Jamais il n'aurait imaginé que Génor puisse prendre une décision aussi honteuse. Protéger les anciens ados du tipi et du château, et sacrifier les autres.
Liu ?
Le savant, perdu dans ses pensées, n'entendit pas tout de suite Ogénor l'interpeller.
Liu ?
Le savant releva enfin les yeux.
Voilà, tu vois, c'est réglé. Ta place est libre dans les tribunes. Je t'en prie, viens assister au spectacle avec nous.